bonsoir. Entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, pourquoi la France refuse-t-elle de rapatrier les djihadistes? La semaine dernière à Washington, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exhorté ses alliés européens à procéder au rapatriement de leurs ressortissants partis faire le djihad en Syrie. Une demande redoublée par celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a précisé qu'il serait irresponsable, je cite, d'attendre de l'Irak qu'il résolve le problème à la place des pays d'origine. La France, au même titre que d'autres pays européens, refuse le retour des Français djihadistes et demande à ce qu'ils soient déplacés en Irak. Par exemple, pour y être jugé, tandis que certains milieux antiterroristes et les avocats des djihadistes considèrent qu'il est plus dangereux pour leur vie, mais également pour la sécurité du pays, de les laisser dans des camps en Syrie ou des prisons en Irak. C'est ce que nous verrons avec nos quatre invités, avec Hugo Micheron, il est docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure. Sa thèse porte sur les territoires du djihad français et elle est à paraître en janvier aux éditions Gallimard. Raphaël Parizeau est également avec nous, elle est professeure de droit pénal à l'université de Nanterre et elle s'intéresse en particulier à la question de la justice pénale internationale. Également avec nous Marie Dauzé, avocate des djihadistes, de certaines familles de djihadistes et qui justement à ce titre-là pourra nous parler de la façon dont elle envisage cette question du rapatriement. Et également avec nous Raphaël Gauvin, il est avocat et député LREM, il est député de la Saône-et-Loire et rapporteur de la loi antiterroriste, c'était en 2017.
Nous estimons, quand je dis nous, ce n'est pas uniquement la France, tous les Européens estiment que ces combattants-là doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Et donc nous travaillons aujourd'hui à la mise en œuvre d'un outil spécifique, juridictionnel, qui soit à même de le faire. Puis il y a les enfants, c'est autre chose. Et sur les enfants, nous avons déjà commencé à en rapatrier quelques-uns. C'est très difficile parce que c'est une zone de guerre. J'entends dire ici ou là, il faut les rapatrier. Oui, mais c'est la guerre. Et donc... Si l'on peut en rapatrier d'autres, on le fera. C'est la position de la France, c'est aussi la position des autres pays européens.
Et c'était la position de Jean-Yves Le Drian à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de la coalition anti-Daesh. C'était la semaine dernière, jeudi dernier, très exactement, à Washington. Bonsoir à tous les quatre et à toutes les quatre. Merci d'être avec nous ce soir. Marie Dauzé, bonsoir.
Bonsoir.
Quand vous entendez Jean-Yves Le Drian tenir cette position, d'abord, une première question. Est-ce que vous pensez que la position de la France a changé depuis quelques mois? Est-ce que cette position qui est affirmée, donc ne pas les rapatrier, sauf peut-être les enfants, est une question qui se posait de la même manière et dans les mêmes termes il y a maintenant 9 ou 10 mois, enfin mettons à l'hiver dernier, lorsque on retourne sur une année en arrière?
Non, mais juste avant la chute de Baghouz, hein, dès le mois de janvier, la France avait préparé un plan de rapatriement. Et d'ailleurs, Édouard Philippe avait expliqué, est-ce qu'on préfère qu'ils soient dispersés, qu'ils rejoignent les rangs de Daesh ou qu'ils partent dans un autre pays pour continuer à fomenter de tels actes? Nicole Belloubet avait, le 21 janvier, exprimé le fait que la France doit faire le choix de la préférence du contrôle et donc du rapatriement. Donc il y a eu un moment, juste avant la chute de Baghouz, en janvier-février, où la France avait
2019.
Fait le choix... 2019, avait fait le choix de la raison, c'est-à-dire du rapatriement. Et puis un sondage, et puis un revirement fait que la France est aujourd'hui prise à son propre piège. Mais lorsque j'entends Monsieur Jean-Yves Le Drian expliquer que ces femmes, je m'occupe moi des femmes, doivent être jugées là où elles sont, c'est-à-dire en Syrie, encore une fois, c'est une ineptie. La justice syrienne n'existe pas, le Kurdistan syrien n'a jamais existé, il existe encore moins aujourd'hui qu'hier, mais on ne va pas attendre que Bachar el-Assad arrive dans ses camps pour les livrer à l'armée syrienne. N'oublions pas qu'il n'y a plus aucune relation diplomatique entre la France et la Syrie. Ces enfants de surcroît souffrent depuis des années. Donc voilà, nous n'avons pas fait le choix de la raison. Et maintenant, nous sommes un peu piégés, mais il est encore temps d'entendre ce que disent finalement tous les spécialistes.
Alors, Raphaël Gauvin, bonsoir. Vous êtes donc, je le rappelle, député LREM de Saône-et-Loire et que vous avez donc soutenu la loi antiterroriste de 2017. Vous l'avez présentée, même cette loi. Qu'est-ce que on peut dire de ce qui vient d'être dit par Marie Dauzé? Est-ce que vous pensez que ce choix de la raison que présente Marie Dauzé, c'est le choix qu'il faut faire pour la France?
Non, mais je pense que le choix de la raison, enfin le principe essentiel, c'est que les personnes doivent être jugées là où elles ont commis leurs crimes. Qu'est-ce qu'on penserait si nous, la France, si des étrangers venaient en France commettaient des crimes et qu'après on dise ben non, ils doivent être jugés dans leur pays, enfin dans leur pays national. Donc non, le choix de la raison, c'est ça. Le choix de la raison, c'est que ces personnes qui ont choisi d'aller combattre, hein, d'aller combattre contre la coalition, qui ont choisi donc de rejoindre les rangs de Daesh, qui ont commis des crimes là-bas, ils doivent être jugés sur place. Après, il faut que ils ont droit aussi à un droit inaliénable, c'est-à-dire que
en Syrie, par exemple, c'est compliqué aujourd'hui.
Oui, oui. Voilà, il y a des accords qui sont en train d'être mis en place, mais ils doivent être jugés. Le principe de base, c'est celui-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a un droit inaliénable. Ce sont des Français, donc ils ont droit à une protection consulaire. Mais ils doivent être jugés là où ils ont commis leur crime.
Raphaël Parisot, que dit le droit international dans ce cas d'espèce?
Alors, le droit pénal international dit que le principe, effectivement, c'est celui de la territorialité, à savoir que les individus en priorité doivent être jugés sur le territoire où les faits qui leur sont reprochés ont été commis. Cela étant, la France est tout à fait compétente pour les juger, puisqu'il y a un second principe qui est celui en vertu duquel les juridictions françaises et la loi pénale française s'appliquent à tout individu ressortissant français qui est soupçonné d'avoir commis un crime à l'étranger. Donc là, on a deux logiques juridiques qui se percutent, si vous voulez. Mais après, la question est de savoir de ce qu'on veut en faire de ces individus. Alors, on peut dire qu'on peut les rapatrier pour différentes raisons. D'abord, une raison si on est français, on n'a pas à laisser ses ressortissants exposés à un jugement inéquitable, voire à la peine de mort, pour ceux qui ont déjà été condamnés en Irak. Et la deuxième raison, qui peut-être plaira davantage à l'opinion publique, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut peut-être mieux savoir où se trouvent ces individus, plutôt que de les laisser dans la nature au Moyen-Orient.
Raphaël Gauvin, puis Marie Dosé.
Non, le principe, évidemment que la France peut juger des nationaux pour des faits qui ont été commis sur un territoire étranger. Mais la problématique, c'est là, dans le cadre d'un procès, c'est la problématique de la preuve. Et que la difficulté qu'aurait la justice française d'instruire, de savoir exactement ce qui s'est passé, alors qu'on est à des milliers de kilomètres, de pouvoir faire des auditions, d'entendre les victimes, etc. C'est toute la difficulté qui se poserait si ces personnes étaient rapatriées et jugées en France. Mais c'est pas impossible, bien sûr.
Marie Dosé.
Mais toutes ces personnes sont déjà judiciarisées dans un seul pays, c'est la France.
Qu'est-ce que vous voulez dire judiciarisées?
C'est très simple. Toutes ces personnes font l'objet d'une information judiciaire antiterroriste pour d'une enquête préliminaire antiterroriste ou d'un mandat d'arrêt, d'ailleurs, international d'un juge antiterroriste. Toutes ces personnes se sont rendues coupables en allant en Syrie d'associations de malfaiteurs à caractère terroriste. C'est une infraction pénale qui est applicable dès l'instant où on va en Syrie, où on pénètre en Syrie, dès l'instant même où on souhaite aller en Syrie. Donc n'oublions pas tout de même que ces femmes, depuis 2 ans, ne sont judiciarisées nulle part, sauf en France. Qu'elles sont en détention arbitraire, puisque la justice syrienne n'existe pas, et que pour l'instant, elles sont dans des camps détenus arbitrairement, et que la Syrie n'a jamais prévu de les juger. Que par contre, un juge antiterroriste, et pas le moindre, le coordinateur des juges antiterroristes français, explique que la justice antiterroriste les attend.
C'est David Depasse qui a déclaré ça il y a un petit mois. C'était le 18 octobre, il a dit ne pas les rapatrier fait courir un risque de sécurité publique pour la France, et du point de vue du juge, il est préférable de savoir que ces gens sont pris en charge judiciairement en France. Sur ce point, Raphaël Gauvin.
Oui, en fait, c'est pas pour les mêmes faits. C'est-à-dire qu'ils sont, ils seraient mis en examen. C'est-à-dire que s'ils revenaient en France pour s'être rendus en Syrie, mais là, ce dont on parle, c'est de savoir, mettre en place un procès pour les faits qu'ils ont commis là-bas, c'est-à-dire les crimes de guerre.
Mais est-ce que ça n'est pas un peu une argucie juridique? On a bien compris en écoutant Raphaël Parisot qu'il y avait
C'est aussi respecter ce principe qu'on a rappelé au début, c'est-à-dire que le principe de territorialité, c'est-à-dire qu'ils doivent être jugés là où ils ont commis leur crime. Après, encore une fois, si jamais, pour des raisons géopolitiques, notamment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il y a des personnes, notamment, qui sont renvoyées depuis la Turquie, etc., vous l'avez très bien rappelé, au moment où ils arrivent sur le territoire national, ils seront pris en charge par la justice française.
Hugo Micheron, bonsoir. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure, que votre thèse sortira chez Gallimard en janvier. C'est une thèse sur les territoires du djihad français. Vous avez également travaillé au King's College à Londres. Vous avez aussi peut-être une vision très large de cette question-là, puisque en ayant travaillé en Grande-Bretagne, on voit que tous les pays européens ne pensent pas de la même manière à la question du rapatriement de leurs djihadistes sur leur sol.
Oui, et les pays européens, c'est principalement les pays d'Europe du Nord-Ouest, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne. La France et
j'ai
les Pays-Bas,
que le Danemark aussi s'intéresse beaucoup.
En proportion, le Danemark est très touché. Et effectivement, la question pose problème dans tous ces pays. Et ces pays répondent différemment. Donc, que ce soit le Danemark ou la Grande-Bretagne, ils ont choisi d'opter pour la déchéance de nationalité. On voit bien qu'il ne résout pas le problème. C'est-à-dire que finalement, ils préfèrent empêcher toute forme de retour potentiel à ces individus, qui posent, au-delà des questions juridiques, un problème sécuritaire. Et c'est évident, puisque ceux qui sont encore sur zone, les djihadistes encore sur zone, en tout cas pour ce qui s'agit des hommes et des femmes, puisqu'il y a le cas aussi très, très prégnant des mineurs qui sont majoritaires sur place, sont des jusqu'au boutistes.
300 mineurs, c'est ça pour les Français?
Les chiffres sont très durs à rassembler. On évoque plus de 300 mineurs, c'est-à-dire la majorité des Français sur zone sont des mineurs, et souvent des très jeunes mineurs. Mais la question, c'est surtout que les Français encore présents sur place sont ceux qui ont renoncé à la possibilité de rentrer plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs vagues, plusieurs opportunités de retour en 2014, en 2015, en 2016. Ils n'ont pris aucune de ces portes ouvertes vers le retour, et donc c'est en quelque sorte des jusqu'au-boutistes. Par ailleurs, les hommes contrairement aux femmes et aux enfants qui sont assez localisés dans des camps, les hommes, pour certains, sont non détenus. Ils sont dans la nature. Donc la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour tous les Français sur zone. Il y a différentes catégories de Français, différentes catégories de djihadistes, si j'ose dire.
Marie Dosé, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est qu'on voit arriver régulièrement, et là encore très récemment, femmes de djihadistes avec des enfants, par exemple, sur le territoire national. Ils ont été expulsés par la Turquie après l'offensive turque dans le nord de la Syrie. On se dit donc que normalement, la France ne veut pas en récupérer, mais elle en récupère quand même. Comment expliquer cela, juridiquement parlant?
En fait, il y a deux choses. Il y a d'abord ceux qui parviennent à arriver en Turquie, c'est-à-dire qui fuient l'État islamique et qui parviennent à arriver en Turquie à partir de là, parce que l'accord Cazeneuve s'applique, le protocole Cazeneuve.
Il faut préciser, c'est un protocole de 2014.
Entre la Turquie et la France, qui fait que dès l'instant où un ressortissant français arrive en Turquie, il est placé dans un centre de rétention turc et il est expulsé vers la France. Donc il y a eu énormément de Français. Quand je dis énormément, au 1er octobre 2018, il y avait 261 majeurs et 84 mineurs qui étaient rentrés via la Turquie en France. Alors, donc expulsés en France. Et puis, il y a le rapatriement. Il faut différencier expulsion et rapatriement. Rapatriement, c'est la France qui n'a pour l'instant été dans les camps qu'à quelques reprises et n'a rapatrié qu'une poignée d'orphelins. C'est pas tout à fait la même chose.
Justement, Hugo Micheron, comment faire la différence? Parce que tout compte fait, pour une opinion publique qui voit, entre guillemets, des djihadistes qui reviennent sur le territoire national, comment faire la différence entre ces types de djihadistes, ceux qui sont expulsés et ceux qui pourraient, entre guillemets, être rapatriés?
Alors déjà, il y a la question du nom, mais il faut quand même préciser des choses. Les djihadistes ne fuient pas l'EI. L'EI a été détruit territorialement et ils sont détenus. Mais c'était eux qui poussaient des centaines de milliers de réfugiés sur les routes de l'Europe. C'est pas il n'y a plus d'EI sous sa forme califale. Donc, de ce point de vue-là,
l'État islamique.
Exactement. Donc la question, c'est la question du nombre. Le protocole Cazeneuve a été mis en place en 2014 parce que la France remarquait qu'il y avait des djihadistes qui rentraient sur son territoire pour commettre des attentats. Donc cet accord avait pour but que la Turquie arrête les djihadistes en Turquie pour les renvoyer en France. Mais maintenant, on a une zone qui est un trou noir, à vrai dire sécuritaire et informationnel, qui est le nord-est de la Syrie, dans lequel évoluent des individus dont on ne sait pas quoi faire. Et aucun pays ne sait quoi faire.
Dans cette zone, il y a en particulier les camps gardés par les forces kurdes. Il y a également maintenant des camps gardés par des Turcs. Et puis, il y a tout un tas de
situations remises en question depuis le retrait américain du début du mois d'octobre.
Raphaël Gauvin, justement, comment expliquer à l'opinion publique, puisque l'opinion publique est visiblement très importante dans ces jugements-là, que d'un côté on en accueille parce qu'ils sont expulsés et que d'autres on n'en veut pas?
Mais c'est pas par rapport à l'opinion publique. Enfin, c'est par rapport à notre sécurité.
Mais est-ce qu'ils sont, on serait plus en sécurité s'ils étaient dans des prisons françaises que s'ils couraient, comme vient de l'expliquer Raphaël Parizeau, Hugo Micheron, ils couraient dans tout le sud-espace.
S'ils sont, comme vous dites, dans la nature, etc. Après, ils sont appréhendés et que les Syriens ou les Irakiens ne veulent pas les juger. Évidemment que ça sera la France qui, à partir partir de ce moment-là, prendra ses responsabilités, ils seront rapatriés et ils seront immédiatement mis en garde à vue, placés en détention et jugés en France. Après, le principe de base, c'est que si les Irakiens, ceux qui détiennent ces combattants français, s'ils veulent les juger, c'est leur droit de les juger. C'est leur droit de
les juger. Oui, mais on parle des Irakiens, on comprend très bien.
Voilà.
Mais ceux qui sont en Syrie, ils sont pour l'instant pas en Irak.
Ceux qui sont dans la nature. Alors, le problème, c'est que nous, c'est pas notre territoire, donc on n'est pas sur place. Mais s'ils sont appréhendés, comme ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin il y a 15 jours avec l'offensive turque, à partir de ce moment-là où ils reviennent vers la Turquie, à ce moment-là, ils sont expulsés. Et effectivement, ils sont expulsés et pris en charge par les Français. C'est pas un problème d'opinion publique, c'est un problème de sécurité pour les Français et la France.
Raphaël Parizeau, que dit le droit pénal international dans ces conditions-là? Parce qu'on a compris qu'il y avait la question des expulsions ou des extraditions, ça n'est pas tout à fait la même chose, qu'il y a la question effectivement de comment, quel type d'anciens djihadistes doit-on récupérer sur son sol, et justement, faut-il peut-être aussi imaginer une juridiction pénale spécifique pour ceux qui ont commis des crimes dans cette région?
Alors, il y a plusieurs questions dans la vôtre.
C'est bien. C'est souvent le cas.
Mais pour répondre à la première partie de la question, il est clair qu'il y a, à mon avis, trois cas de figure ici. Le premier cas de figure, c'est le territoire turc, la question de l'expulsion. Donc là, c'est la Turquie qui nous renvoie des individus et par l'intermédiaire du protocole Cazeneuve, on peut les suivre et les interpeller en France pour pouvoir éventuellement les juger. Le deuxième cas de figure, c'est ce qui se passe en Irak. Là, en Irak, on a des individus qui sont emprisonnés, qui pour certains d'entre eux ont déjà été condamnés, voire condamnés à mort. Et là, il est possible que la France, non pas les reçoive, mais demande leur extradition. Ça, c'est tout à fait possible qu'on demande leur extradition, soit pour les juger sur notre territoire, soit pour ceux
pour d'autres crimes que ceux qui ont été commis sur le territoire en question, par exemple. On peut les extrader pour pouvoir leur demander...
S'ils n'ont pas encore été jugés, on peut les extrader, on peut demander l'extradition pour les juger pour les faits pour lesquels ils sont emprisonnés en Turquie. Et pour ceux qui ont déjà été condamnés, on peut tout à fait demander leur extradition pour qu'ils exécutent leur peine en France. Et à ce moment-là, évidemment, on fera une conversion de la peine de mort en une peine de réclusion criminelle. La question la plus difficile, à mon sens, c'est la question des individus qui se trouvent soit dans des camps de détention, soit dans des camps, soit dans la nature, dans ce trou noir, comme vous l'avez défini, de la Syrie. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas d'interlocuteur en Syrie pour demander leur retour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on attend qu'ils aillent en Irak, c'est pas du tout une bonne solution, soit on attend qu'ils aillent en Turquie pour qu'ils soient expulsés. Donc ça, c'est une question éminemment compliquée. Enfin, d'un point de vue pratique, j'entends bien les difficultés qui se posent. Et puis la deuxième partie de la question.
Raphaël Gauvin, puis Marie Dosé. Par exemple, comme le fait Jean-Luc Le Drian.
La problématique, c'est ça, c'est qu'on est dans une zone de guerre, et donc les individus sont dans la nature, et donc c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de solution idéale. Par contre, à partir de ce moment-là, c'est là où la sécurité des Français est préservée, c'est à partir de ce moment-là où ils sont appréhendés par les forces turques, et donc il y a ce protocole Cazeneuve, à ce moment-là, ils sont pris en charge par les Français.
Marie Dosé.
Un exemple pragmatique. Dans le camp d'Aïn Issa, il y a quelques semaines, les bombardements turcs approchent, mini-émeute dans le camp, les femmes ont dû quitter le camp. Et je le sais, puisque je l'ai vécu en direct avec elles. Elles ont dû quitter le camp. Il y avait 10 femmes et 20 enfants. Seules 4 femmes et 7 enfants ont réussi à rejoindre la Turquie. Et pour avoir suivi leur périple jour après jour, je peux vous assurer qu'entre les milices syriennes et puis les groupuscules terroristes, elles ont échappé de peu au pire. Et les 6 autres femmes et les 13 autres enfants, nous n'avons plus aucune nouvelle. Mais c'est à cela qu'on s'expose, enfin. En les laissant pourrir dans ces camps, qui de toute façon ne peuvent plus être sécurisés. Les Kurdes vont finir par s'en aller, les bombardements turcs approchent, Bachar el-Assad va finir par prendre la main sur ces camps, on est en train de mettre en péril la vie d'enfants innocents et de disperser des femmes au risque d'être récupérées par l'État islamique, par Daesh ou par des milices syriennes, alors même que certaines d'entre elles, et j'en sais quelque chose, voilà 2 ans que je demande leur rapatriement de 40 femmes qui demandent à prendre leur responsabilité pénale en France. Alors que elles, ce qu'elles attendent, c'est que la France les mette en prison. Quelle est la rationalité de ce choix?
Hugo Micheron.
Alors il y a plusieurs questions. Déjà, je pense que les questions juridiques effectivement sont posées, mais il y a aussi la dimension politique. Et cette question est éminemment politique en l'occurrence. Il est délicat, notamment, de penser la prise en charge de ces individus en aval, c'est-à-dire en prison. C'est-à-dire qu'une fois les personnes rapatriées, la question se pose de la gestion en détention. On le sait, pour la première fois dans l'histoire des institutions françaises, on a 500 djihadistes sous main de justice qui sont incarcérés. Par ailleurs, depuis leur incarcération, on détecte 1300 droits communs radicalisés. C'est pas rien, c'est un phénomène qui n'a jamais été rencontré jusque-là. Pour vous donner...
Vous en avez rencontré pour votre thèse. Hein.
80 dans le cadre de ma thèse. Pour prendre un point de comparaison, on avait une cinquantaine de Français djihadistes dans les années 2000. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a multiplié par plus de 10, si vous voulez. Donc c'est quand même un phénomène à prendre en compte, et notamment parce que la prison, parce qu'il est extrêmement délicat de les prendre en charge une fois derrière les barreaux. Donc c'est aussi cette matière délicate à prendre en charge qui se pose une fois rapatriées sur le sol français. Pour les femmes, c'est légèrement différent parce qu'elles sont moins nombreuses, mais les femmes ne sont pas moins radicalisées parmi celles que j'ai pu rencontrer. Il y a un biais genré énorme qui consiste à penser qu'une femme djihadiste serait finalement victime de son sort. La réalité des faits, c'est que pour la plupart de celles qui sont parties et beaucoup de celles qui sont encore sur place, elles sont très idéologisées. Donc si on pose les termes du débat de cette façon, on peut le trancher, mais il faut bien donner l'ensemble de l'énoncé.
Et puisque vous parlez de justement ces femmes idéologiques, je vous propose d'écouter un extrait de la série Des Pieds sur Terre sur France Culture, Ma fille sous influence saison 2 de l'autre côté du miroir, diffusée en juin dernier sur France Culture. Edith Bouvier et Céline Martelet ont interrogé par WhatsApp cette Française, Sarah, partie rejoindre l'État islamique en 2014 avec son mari et leurs enfants. Ils ont fui Daesh, mais vivent toujours en Syrie.
J'aimerais bien retourner en France, retrouver ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, mon père, et ne pas aller en prison. Parce qu'en France, on sait que le jugement pour les revenants, c'est dans les 10 ans comme ça, pour cette erreur qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est coincés ici, mais au moins, on est ensemble. Mon rêve, ce serait d'être en France avec mes enfants et mon mari. Que mes enfants ils soient scolarisés. Parce que là, ici, en vrai, je ne sais pas comment je vais faire pour les scolariser. C'est des écoles arabes. J'ai peur qu'ils se fassent kidnapper. Je ne sais rien, en fait. Je ne fais pas confiance. Qu'est-ce qu'il y a ? Fais voir.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorcière doit s'habiller. Et voilà, nous, on est prêts. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un extrait donc de cette série Des Pieds sur Terre sur France Culture, c'était en juin dernier, donc réalisé par Edith Bouvier et Céline Martelet, interrogée ici une Française, Sarah, partie rejoindre l'État islamique en 2014. Raphaël Gauvin, on voit bien que ces situations sont complexes selon les pays dont on parle. La Turquie, le nord-est de la Syrie, le reste de la Syrie, l'Irak, tout cela, ça ne permet pas de gérer de façon uniforme, pourrait-on dire, ce qui est en train de se passer sur place.
Non, mais d'ailleurs, c'est pas géré de manière uniforme. Bien sûr que les situations sont complexes. Et puis, pour revenir, enfin, j'aimerais rebondir sur votre propos, il faut rappeler aussi quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que quand les personnes en 2014 ou en 2014-2015 ont choisi de partir sur le théâtre irakien, évidemment que ce sont des gens qui sont extrêmement idéologisés, qui sont partis là-bas pour combattre. Et donc, ce sont des gens qui, potentiellement, sont extrêmement dangereux. Même si il y a un repentir, etc., ce sont des personnes qui sont extrêmement dangereuses. Après, sur le traitement judiciaire en France, dont vous avez rappelé les chiffres, hein, 1300 plus 500, il faut rappeler sur une population pénale hein, de près de 70 000. Donc c'est quelque chose qui est, dans le cadre de notre système, enfin des prisons en France, c'est quelque chose qui est gérable. Qui est d'ailleurs, et qui est géré par...
Il y a pour l'instant 510 détenus pour terrorisme, je crois.
510 détenus, et il y en a 300 personnes.
Il y a 106 cellules qui, paraît-il, sont prêtes pour pouvoir accueillir les plus dangereux de ces djihadistes qui pourraient revenir.
Oui, tout à fait, oui. Et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français. Hugo Avec Michon. Un protocole, quand ils arrivent, où ils sont pris en charge, enfin qui a été mis en place par l'administration pénitentiaire.
Hugo Micheron.
Que ce soit gérable, c'est l'argument de communication de l'administration pénitentiaire. La réalité, ça c'est au cœur de mon terrain et c'est au cœur du livre à paraître en janvier, c'est que la pénitentiaire tâtonne énormément avec une matière qu'elle a du mal à comprendre. Parce que
par exemple, il y a peu de repentis, dites-vous, en prison.
Il y a très peu de repentis et puis surtout, les programmes ont été pensés à la hâte, sur la base d'une urgence politique qui était celle des attentats, entre un compromis au sein du ministère de la Justice, mais pas du tout sur la base de la matière qu'ils avaient à traiter, à savoir voir la radicalisation djihadiste. Et de ce point de vue-là, ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que les 1300 radicalisés parmi les détenus dits de droit commun, donc qui ne sont pas condamnés pour des faits liés à l'islamisme ou au djihadisme, ces individus-là ont été détectés entre 2015 et aujourd'hui. C'est depuis l'incarcération des revenants de Syrie. Donc la pénitentiaire peut dire qu'elle est très bien outillée. Ça reste à prouver, et c'est en tout cas sujet à débat, à mon sens.
Non, mais le grand enjeu, Raphaël, le grand enjeu, parce que ces personnes-là, de toute façon, elles sortiront un jour. Donc le problème et l'enjeu, il est devant nous. C'est la prise en charge de ces personnes dans le cadre de leur incarcération, détention provisoire, et puis après, quand ils exécutent leur peine, et puis surtout après, parce que de toute façon, ils vont bien sortir un jour. Donc c'est ça qu'il faut prendre en charge, et c'est ça qu'il faut et le grand défi qui est devant nous, qui concerne l'administration pénitentiaire et plus largement l'ensemble de la société, c'est ça. C'est comment on les prend en charge à leur sortie.
Raphaël Parisot, on vient d'évoquer avec Hugo Micheron la question des lois antiterroristes. Nous avons une législation antiterroriste qui a quand même beaucoup cru depuis ces dernières années, et en particulier depuis 2015. Et vous pensez qu'elle est capable justement d'accueillir, enfin de faire en sorte que les gens qui reviennent puissent être jugés en France ?
Oui, je pense qu'on a sans doute la législation antiterroriste, en tout cas l'une des législations antiterroristes les plus sévères d'Europe. Cette législation, alors c'est pas simplement depuis 2015, on peut dire déjà avant, il y avait déjà la loi de 2014. On a une législation extrêmement sévère, hein, prévue dans le code pénal, mais pas uniquement dans le code pénal, puisqu'on a des dispositions qui ont été intégrées dans le code de la sécurité intérieure également. Et on punit au titre du terrorisme des individus qui, j'allais dire simplement, mais pour montrer qu'on les punit très tôt, qui participent à un groupement ou à une entente qui vise la préparation d'actes de terrorisme.
On a même voulu effectivement mettre en place une législation sur la consultation de sites terroristes, par exemple.
Oui, oui.
Mais dans le coup, vous pensez, vous, Raphaël Parisot, en tant que spécialiste de droit pénal international, qu'il est meilleur pour une société comme la nôtre qu'il soit jugé en France ou qu'il soit jugé sur place, comme on voit le débat se nouer? Est-ce qu'il y a de l'anxiété qui est lié à la question de l'incertitude de ce qui peut arriver sur place?
L'incertitude pour qui?
Bah, de l'incertitude de leur sort sur place, de savoir ce qui peut se passer, de savoir s'ils peuvent revenir, par exemple. Est-ce que la société serait plus prête, selon vous, malgré les sondages, à accepter qu'ils reviennent sur les territoires français pour pouvoir être jugés qu'à les laisser sur place?
Moi, je pense que le discours politique qui est tenu depuis le début de l'année, qui est un discours politique fait un peu d'aller et venu, d'incertitude, crée de l'anxiété. Si on était clair depuis le départ, à savoir on les juge chez nous, ce serait beaucoup moins anxiogène à mon sens. Et par ailleurs, en tant que juriste, en tant que pénaliste, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer qu'on laisse des individus jugés dans des conditions inéquitables dans des pays lointains et exposés à la peine de mort. Ça, j'ai beaucoup de mal.
Oui, Hugo Micheron.
Sur cette question des procès, qui est aussi extrêmement importante, je parle évidemment sous le contrôle de Madame la professeure Parisot, c'est la difficulté, c'est aussi l'instrumentalisation des procès, à savoir que la plupart de ces individus, du fait qu'ils ont été dans des zones où il est très dur de documenter ce qu'ils ont fait, ont des dossiers qui arrivent relativement vides devant les juges, et donc du coup, dans les procès, leur défense a souvent met en avant le fait que les dossiers sont vides pour la condamnation, et donc il y aurait soi-disant une instrumentalisation du droit. Si vous voulez, ils dénoncent une instrumentalisation du droit ou une islamophobie d'État, c'est comme ça que c'est présenté, parce que la France aurait la main lourde avec des prévenus. Et donc, cette question est très importante aussi parce qu'elle est au cœur des retours, à savoir quand on fait revenir des individus ensuite, parfois il est très dur de documenter les éléments, et du coup, les procès tournent à la mascarade. Si vous voulez.
Raphaël Parisot brièvement, Raphaël Gauvin, puis Marie Dosé.
J'allais dire, la preuve est à la fois très difficile et très facile. Très difficile parce qu'il faut la recueillir en territoire étranger, et très facile parce qu'on est en matière terroriste et qu'on connaît le caractère très imprécis des infractions terroristes en France, sachant qu'on peut placer quelqu'un en garde à vue dès lors qu'on a des raisons plausibles de soupçonner, qu'on peut le placer en détention provisoire dès lors qu'on a des indices graves ou concordants pour des infractions terroristes qui sont imprécisément définies. Il n'est pas très compliqué, à mon avis, d'aller jusqu'à la
Raphaël
condamnation.
Ce qui n'est pas compliqué, si la personne, par exemple, achète un billet d'avion et envisage de partir pour la Syrie, ça, c'est un acte préparatoire d'acte de terrorisme. Donc ça, c'est extrêmement facile.
C'est un peu compliqué, c'est un peu dangereux ce que vous nous dites là.
C'est un acte préparatoire et donc ils peuvent être placés en détention provisoire, etc. Mais la problématique qui se pose dans le dossier, c'est pas ça. C'est comment on condamne, comment on poursuit les actes qu'ils ont commis sur place. Et c'est là où il y a une problématique de preuve.
Je ne suis pas du tout d'accord, parce que c'est pas tant pour ces crimes-là qu'ils vont être jugés que pour les infractions, sur un terrain terroriste, de toute manière. C'est les infractions les plus faciles.
Non, mais ce qu'on leur reproche, pourquoi ils sont aujourd'hui dans les prisons irakiennes, etc., c'est pour les actes qu'ils ont commis sur place. Et c'est là où il y a une problématique de preuve. Et c'est là la difficulté qu'il y a pour la justice française d'appréhender, parce qu'on ne peut pas faire de confrontation, parce que les faits ont été commis.
On n'en a pas besoin, parce que l'infraction antiterroriste, elle est tellement large qu'il suffit de la retenir.
C'est pas du tout la même ampleur. C'est un simple délit, alors que ce qu'on leur reproche sont des crimes en matière terroriste.
Excusez-moi, mais la peine encourue va jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Certes, au niveau de la prescription, c'est la même chose que pour les crimes de guerre. D'ailleurs, c'est 30 ans. Il n'y a pas d'imprescriptibilité.
Non, mais c'est pas là-dessus dont je vous parle. Le simple départ pour la Syrie, ça peut être considéré comme un acte préparatoire, et donc ils peuvent être mis en examen pour des délits ou des crimes terroristes. Mais c'est pas ça qui est la problématique de pourquoi on veut les juger. C'est les faits qu'ils ont commis sur place. C'est ça la problématique.
Marie Dosé.
Et c'est là où qui a été très bien souligné. C'est là la problématique de preuve. Et c'est pour ça que la position, c'est que les personnes doivent être jugées sur place.
Marie Dosé.
Non, mais moi quand j'entends que les procès ont dit terroristes tournant la mascarade ou qu'on a une problématique de preuve, enfin excusez-moi, mais je suis à l'épreuve de la justice antiterroriste comme avocat depuis 2 ou 3 ans et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de problématique de preuve, notamment pour condamner l'un de mes clients qui pensait à un moment, qui a voulu aller en Syrie après les attentats.
On dit la même chose.
Écoutez-moi, jusqu'au bout, à 10 ans, dont 2 tiers de sûreté, et son épouse qui partageait pas son projet, à 6 ans, dont 2 tiers de sûreté. Et il n'y a pas besoin de savoir ce qu'ils ont fait là-bas pour être passible d'une peine criminelle, pas correctionnelle. Donc vous vous trompez. Je pense qu'on participe à un climat anxiogène sur ces retours, en disant finalement, la justice antiterroriste n'est pas capable de ce dont est capable la justice antiterroriste irakienne, qui effectivement condamne à mort après 5 minutes ou 10 minutes de procès.
Donc ça n'a pas de sens. C'est pas ça. C'est les faits qu'ils ont commis sur place.
Vous connaissez mal la justice antiterroriste.
Non, pas du tout. J'ai été avocat aussi, comme vous. J'ai fait des mises en examen à la galerie Saint-Éloi, et j'ai fait aussi des ventes, donc je connais très bien
le. Hugo Micheron. Non, la question, c'est pas la question de la preuve, parce que justement, l'arsenal juridique français permet de judiciariser très facilement et de s'en passer. La question, c'est ce qui se passe pendant ces procès. C'est ça, c'est-à-dire que des individus qui, à l'heure actuelle, préfèrent prendre 10 ans de prison plutôt que de passer 2 semaines de plus sur zone, parce que effectivement, ils se sont rendus au cœur d'un enfer et ils ont découvert, au moment où Daesh s'est effondré, la réalité d'un pays en guerre. Désormais, ils souhaitent évidemment rentrer, mais une fois qu'ils seront rentrés, c'est tout à la gloire de la France, je crois, de garantir une défense à ces individus. Mais ils vont ensuite avoir de cesse de mettre en cause la justice française sous prétexte qu'il n'y aurait pas de preuves pour les faire condamner et que les justices antiterroristes seraient surdéveloppées. Et c'est ça aussi, parce que c'est les questions juridiques, elles sont, il faut les prendre en compte, mais la question politique est éminente aussi.
Excusez-moi, mais très franchement, si vous imaginez une seconde que les avocats passent leur temps à plaider des acquittements et des relax en considérant que le délit d'association malfaiteur ou le crime d'association malfaiteur n'est pas constitué, c'est parfaitement faux. C'est pas du tout comme ça aujourd'hui que l'on travaille. Non, mais la défense de celui qui est allé n'est pas « vous n'avez aucune preuve contre moi ». C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et en tout cas, plus maintenant, plus depuis 2 ou 3 ans, véritablement, il y a un autre travail qui est
réalisé. Parmi les 80 individus que j'ai rencontrés, je peux vous dire qu'il y a des individus pour qui c'était le cas. Maintenant, si vous dites que c'est le cas pour personne, on peut que s'en remettre à votre expérience. J'ai la mienne. Ce que je souligne d'un point de vue, c'est la dimension politique. De la même façon que remettre ces djihadistes à l'Irak est aussi une question politique et pas seulement juridique.
Bien sûr. Une question tout de même qu'on n'a pas évoquée ou très peu évoquée lors de cette discussion et de ce débat, c'est la question d'un tribunal spécifique, un tribunal ad hoc. Pourquoi ne va-t-on pas vers la création d'un tribunal spécifique pénal international qu'on a pu le faire dans d'autres zones de conflit auparavant, que ce soit l'ex-Yougoslavie ou pour le génocide des Tutsis du Rwanda? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne le fait pas, alors que peut-être certaines personnes sur place aimeraient justement un type de tribunal de ce type-là, Raphaël Parizeau?
Alors d'abord, c'est pour personne sur place de décider ce qu'elles aimeraient comme justice.
Je pense par exemple aux Kurdes. Est-ce que les Kurdes, par exemple, auraient envie, pour certains d'entre eux, justement qu'un tribunal de ce type puisse se mettre en place pour pouvoir peut-être juger les crimes qui ont été commis pendant ces guerres?
Je pense qu'on n'en est pas là, à mon avis. On n'en est plus là parce que la justice pénale internationale a évolué depuis l'époque des tribunaux pénaux internationaux. Donc on est dans les années 90 pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. On a eu la création de la Cour pénale internationale. international. Et la création de la Cour pénale internationale repose quand même sur un principe qui est à la fois simple et peut-être compliqué à comprendre pour de non-juristes, qui est un principe de complémentarité. C'est-à-dire que la justice pénale internationale, la Cour pénale internationale, n'a à intervenir que si les juridictions nationales ne sont pas capables ou n'ont pas la volonté de juger. Et par ailleurs, au niveau de la Cour pénale internationale, il y a une deuxième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de compétence en matière terroriste. Et le seul tribunal international qui existe pour l'heure au niveau terroriste, c'est le tribunal pour le Liban.
Que faut-il penser de ce rapport qui a été remis par la rapporteure spéciale de l'ONU sur l'exécution extrajudiciaire, sommaire et arbitraire Agnès Callamard, c'était en août dernier, et qui a dit que la France a peut-être bafoué les droits de l'homme et les conventions internationales à propos justement de ce qui se passe, un courrier au gouvernement français envoyé justement en août dernier. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Raphaël Parizeau?
Mais les exécutions extrajudiciaires, alors réalisées sur place, sur les territoires syriens et irakiens. Alors la question avait déjà été posée, me semble-t-il, à la Cour européenne des droits de l'homme à propos ressortissants irakiens qui avaient été remis par des Britanniques aux autorités irakiennes. Et le Royaume-Uni avait été condamné pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme, mais parce qu'ils avaient un contrôle du territoire, ce qui n'est pas le cas, à mon sens, pour la France.
Et aussi dans son rapport, Agnès Callamard dit que la France ne devrait pas pouvoir transférer un individu vers un pays qui, justement, pratique la peine de mort. Raphaël Gauvin, qu'est-ce qu'il faut penser d'un autre côté? Qu'est-ce qu'il faut penser justement de ce qui se passe avec un secrétaire général de l'ONU ou un responsable du secrétariat américain, d'État américain, comme Mike Pompeo, qui disent, il faut continuer, il faut faire rapatrier ces gens-là, parce que, dit Antonio Guterres, on ne peut pas laisser peser sur le seul Irak le poids justement de ces procès à venir.
C'est pas ce que pense la France et beaucoup d'États européens. Je vous dis et redis quel est le principe. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes soient jugées là où elles ont commis leur crime. C'est un principe. Oui, j'ai essayé de vous l'expliquer. Général... C'est un principe de bon sens. C'est un principe de justice. Et c'est aussi un principe pour la sécurité des Français.
Non, mais un secrétaire général de l'ONU, ça n'est pas n'importe qui. C'est tout de même quelqu'un qui représente l'ensemble des nations qui appartiennent à l'ONU. Donc c'est pas la parole de n'importe qui.
C'est pas la parole de n'importe qui, mais la France reste souveraine et l'Europe également et les États européens également, et donc on a une proximité géographique aussi avec cette zone qui fait que on est souverain aussi dans nos décisions.
Hugo Micheron et puis Marie Dosé.
Il n'y aura probablement pas de tribunal spécial international en Syrie pour la simple et bonne raison qu'on n'a personne sur place et que les seuls qui sont en capacité de l'imposer, ce seraient les Russes ou les Syriens éventuellement de Bachar al-Assad, ce qui serait quand même grotesque. Donc je pense qu'il faut comprendre la réalité politique de la région. En ce qui concerne les retours et leur jugement en France, on ne peut pas non plus poser ces questions sans tenir compte des 4 années qui viennent de s'écouler. On vient de passer le 4e anniversaire des attentats du 13 novembre. Évidemment, c'est dans toutes les têtes, puisque de la même façon que Daesh nous est pas tombé sur le bout du nez en 2015, mais que c'est quelque chose qui s'est construit, le djihadisme dans le monde et en Europe s'est construit sur un temps long, de la même façon, il ne va pas disparaître demain parce qu'on aura mis tout le monde derrière les barreaux. Et donc c'est cette question qu'il faut quand même pouvoir aborder dans son ensemble et pas seulement sur la base des propos de la défense de ces individus qui évidemment désormais souhaitent rentrer en France.
Marie Dosé ?
C'est pas la défense des individus qui s'exprime, c'est surtout les spécialistes du contre-terrorisme et notamment les spécialistes du contre-terrorisme américain ou l'ancien président de la DGSI, M. Calvar, ou le président du centre du CAT, le centre d'analyse anti du terrorisme. Ce sont les spécialistes du contre-terrorisme qui tous se disent nous sommes en train de perpétuer les mêmes erreurs. Et ils sont éminemment plus dangereux là-bas qu'ici parce que les attentats de 2015 ont été fomentés d'abord là-bas. Et que jouer la carte de la sécurité, c'est évidemment les rapatrier. Ça n'est pas la défense qui parle, c'est la raison.
Merci à tous les quatre et à toutes les quatre. Raphaël Gauvin, dernier mot.
Très brièvement. En 2015, c'était totalement différent. L'EI n'était pas détruit et ils ont mis en place une opération de projection extérieure de leur poste, de leur force, pour commettre les attentats en France. Le schéma était complètement différent.
Hugo Micheron.
Et il faut bien sûr penser à la question de la prison. Si on pense le djihadisme sans penser à la question de la prison, on passe à côté d'une partie du phénomène.
Merci à toutes et merci à tous d'être venus pour ce temps du débat. Comme d'habitude, Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André à la technique, Clément Daté, à la vidéo Jordan Fuentes et à la réalisation Anna Buis.